L'actualité des Alpes du Sud avec cette femme de 75 ans recherchée depuis lundi soir qui a été retrouvée décédée hier à Gap.
La thèse de l'accident est la plus probable selon le parquet. Une autopsie doit être réalisée.
Après la fermeture du tunnel du Chambon en avril 2015, un nouveau tunnel a été inauguré ce samedi.
Des mois de travaux pour un coût de 24,4 millions d'euros. Reportage d'Olivier Milleville dans ce journal.
Un nouveau contrat local de sécurité de prévention de la délinquance.
Un contrat signé vendredi à Digne-les-Bains qui s'intègre dans la définition de l'action publique territoriale en matière de sécurité et de prévention de la délinquance.
C'est la période pour dévaler les pentes de ski. L'enneigement est plutôt stable avec quand même un risque d'avalanche qui est là mais qui est faible.
Oui, un risque établi sur une échelle de 1 à 5 par Météo France. Explication dans cette édition.
En sport, eh bien, on reviendra en fin de journal bien sûr sur les résultats du week-end.
Et on parlera notamment avec Romaric Ponce du haut alpin Guillaume Albelfo et de son binôme Alexandre Chira, champion d'Europe de relais en boule lyonnaise avec un 55 sur 60 au tir. Météo ?
Ouais, avec un temps qui reste toujours aussi sec et ensoleillé avec seulement quelques petits voiles nuageux d'altitude qui devraient rester fins aujourd'hui. On parle de tout ça bien sûr après le journal. On débute donc avec cette Gapençaise de 75 ans portée disparue depuis lundi soir et qui a été retrouvée morte ce dimanche.
C'est un membre de sa famille qui participait à une battue qui a retrouvé son corps en partie immergé dans un ruisseau situé non loin de son domicile du quartier Saint-Jean. Selon le parquet de Gap, la thèse de l'accident est la plus probable. La septuagénaire se serait égarée en rentrant de course et aurait chuté dans ce cours d'eau. Si aucune trace de violence n'a été retrouvée sur son corps, une autopsie sera réalisée dans les prochains jours à l'Institut médico-légal de Grenoble.
Grave collision entre deux voitures ce dimanche matin vers 11h30 sur la départementale 13 à Volx.
Selon les premiers éléments de l'enquête, alors que la route était légèrement glissante, l'un des deux véhicules se serait retrouvé en travers de l'axe et a été percuté côté conducteur par une autre voiture. 7 personnes étaient impliquées, 6 ont été légèrement blessées et transportées sur l'hôpital de Manosque, dont 2 enfants de 2 et 4 ans. Une conductrice de 50 ans a été héliportée par la SAC de Digne-les-Bains sur l'hôpital nord de Marseille. Son pronostic vital était engagé.
L'enquête se poursuit après l'accident de Montgardin qui a coûté la vie vendredi soir à 19h30 à un laranier de 33 ans.
Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait quitté sa voie de circulation pour une raison inconnue selon les gendarmes avant de percuter 3 autres véhicules qui arrivaient en sens inverse. Le conducteur est décédé sur le coup, les occupants des autres véhicules s'en sont sortis indemnes.
Et puis un cisternier de 37 ans, placé en garde à vue samedi après-midi, l'homme est soupçonné d'avoir renversé la nuit précédente un autre homme de 31 ans.
La victime originaire de Château-Arnoux-Saint-Auban sortait d'une soirée d'entreprise près du parking Super U à Sisteron quand une voiture l'a percuté avant de prendre la fuite. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Digne-les-Bains.
Et puis Aurore, le volet justice avec ce jeune majeur jugé aujourd'hui lundi en début d'après-midi devant le tribunal correctionnel de Gap.
Un procès en comparution immédiate pour cet homme de 18 ans habitant en Veynes depuis peu pour vol et recel en récidive légale. Les faits se sont produits depuis un mois sur la commune au préjudice de 4 victimes outre une intrusion dans le lycée professionnel, explique le parquet de Gap. Le jeune connu de la justice des mineurs d'Amiens a déjà été incarcéré à 3 reprises entre octobre 2015 et juillet 2016 pour des cambriolages. Un mineur de 15 ans serait lui aussi impliqué dans ces faits et est convoqué devant le juge des enfants au mois de janvier prochain pour être mis en examen.
Et dans le reste de l'actualité, la Haute-Romanche qui voit la lumière au bout du tunnel.
Après la fermeture du tunnel du Chambon en avril 2015, suite à un glissement de terrain et des mois de travaux pour un coût de 24,4 millions d'euros, pris en charge par l'Isère, mais aussi l'État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région PACA, l'inauguration d'un nouveau tunnel a eu lieu ce samedi. Reportage d'Olivier Milleville.
Depuis vendredi 16 décembre à 11h10, les automobilistes peuvent de nouveau emprunter le grand tunnel du Chambon après 18 mois de fermeture suite à un glissement de terrain en avril 2015 et des travaux réalisés en un temps record. Le tunnel du Chambon fait dorénavant 300 mètres de plus, 950 mètres de longueur exactement. Une liaison routière indispensable entre les deux départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. Samedi, plusieurs élus étaient venus témoigner sobrement l'importance de ce moment. Jean-Pierre Barbier, président du département de l'Isère, distribuait symboliquement un petit cadeau aux premiers automobilistes rencontrés.
Tenez, merci beaucoup. Un petit cadeau pour l'ouverture du tunnel.
Merci beaucoup.
Vous pour faciliter la vie. C'est un grand moment de joie, d'abord pour les habitants, pour l'économie de ce début de vacances de Noël. Donc je crois que c'est un beau cadeau de Noël qu'on fait à tous les Hauts-Alpins et Isérois qui vont en profiter.
C'est un grand jour aussi parce que ça a été un énorme travail.
C'est un grand jour parce que ça a été un grand défi financier, un grand défi technique parce qu'il a fallu percer ce tunnel très très rapidement et ça a été fait. Donc merci à tous ceux qui se sont investis.
Ben ouais, ça va faire gagner du temps. On est des fans de ski, ski de rando notamment, donc on va très régulièrement dans le Briançonnais. Donc effectivement, ouais, ça va nous faire gagner pas mal de temps, ouais.
Et puis
surtout, ça va faire du bien au commerce, notamment à la Grave, ouais, carrément.
Pour Marcel Cana, il est temps que cet axe routier reprenne vie totalement.
Les gens sont habitués à dire que cette route était fermée, qu'il y avait la route de secours qui était ouverte. Il faut que ça reprenne vie. Ça sera, je pense qu'il y aura un gros effort de communication à faire par toute la partie média, comme vous le faites vous, comme vous le faites très bien. C'est-à-dire qu'il faut que, au niveau international, que cette route est complètement ouverte pour que l'ensemble des villages reprennent vie.
Il s'agit bien d'une ouverture temporaire. La vitesse est limitée à 50 km/h au lieu des 70. La traversée est interdite aux poids lourds. Le tunnel refermera ses portes le 6 mars prochain pour effectuer des travaux de sécurisation de la voûte et un rehaussement de la chaussée de près d'un mètre. Le tunnel rouvrira définitivement fin de l'automne 2017.
Merci Olivier.
Avec les vacances de Noël, la saison de ski est véritablement lancée. Alors bien que l'enneigement soit plutôt stable, avec un petit risque d'avalanche faible, le risque zéro n'existe pas.
Oui, des plaques peuvent toujours se décrocher, découler également en cas de surcharge. Une neige qui fond peut aussi paraître dangereuse. La montagne reste un territoire à risque. Il faut donc se renseigner sur la météo et les conditions d'enneigement, mais pas seulement. Le commandant Sébastien Grand-Clément du PGHM de Josier nous rappelle les règles de prudence.
Il faut bien sûr avoir un fond de sac plus que conséquent, à savoir avec des effets de rechange, avec de quoi s'alimenter, de quoi boire, une trousse à pharmacie, de quoi appeler le secours, donc un téléphone portable. Donc au passage d'ailleurs, je rappelle que le numéro à composer est le 112. Hein. Également avoir une carte, un GPS de l'endroit où on va aller hein, pour pouvoir s'orienter en cas de difficulté. Si c'est un itinéraire montagne ou hors-piste, l'obligation est faite d'avoir avec soi un détecteur de victimes en avalanche, une pelle et une sonde. Une chose qui est également importante, c'est ne jamais partir seul, parce que si vous arrive un accident, il va falloir malgré tout prévenir les secours. Donc quand on part même à plusieurs, toujours laisser un itinéraire à un tiers, ne pas y déroger surtout, de bien rester sur l'itinéraire et indiquer un horaire de retour. À défaut de retour à cet horaire, les personnes pourront prévenir les secours. Donc, et ayant l'itinéraire, on pourra facilement retrouver les gens s'il y a une difficulté.
Le risque d'avalanche est défini chaque jour par Météo France, une échelle de 1 à 5. D'un risque faible à très fort, les explications de Jean-Paul Taillepied, nivologue à Météo France pour les Alpes du Sud à Briançon.
Pour définir le risque d'avalanche, on s'appuie sur tout un réseau d'observations. Hein. Donc on a une trentaine de correspondants qu'on a chaque jour au téléphone et qui vont nous faire des relevés. Alors d'une part des relevés météo, hein, savoir quelle est la température, s'il y a du vent ou non, et d'autre part des relevés plus nivologiques, c'est-à-dire plus en rapport avec la neige, c'est-à-dire l'épaisseur de neige totale, l'épaisseur de neige fraîche s'il y en a, la température de la neige, la masse volumique de la neige, ceci à différents endroits, quoi. Donc pour l'ensemble des Alpes du Sud, les départements 04, 05, 06. Et puis après avoir consulté ces informations, bien entendu, on va voir le prévisionniste qui travaille dans le bureau à côté du nivologue. Et puis on lui demande ce qu'il a prévu comme temps pour les jours prochains. Et donc, avec le temps qui est prévu, on va faire évoluer après notre manteau neigeux pour les prochains jours.
Notez que de nouveaux pictogrammes ont été mis en place pour signaler le risque d'avalanche. Ils sont à découvrir sur alpe1.com. Et à noter également, le risque d'avalanche est de niveau 1 sur 5, soit faible sur l'ensemble des massifs des Alpes du Sud. Des départs spontanés sont peu probables, bien que de rares plaques fragiles sont signalées par Météo France sur les versants froids d'altitude.
Mobilisation pour Cliff, c'était samedi à Marseille.
Elles étaient une vingtaine de personnes dont la famille de ce jeune Dinois de 27 ans dans le coma depuis cet été suite à une collision avec une voiture au Chaffaut Saint-Jurçon a demandé à ce qu'il soit transféré dans une clinique de réveil. Le groupe avait pris place selon nos confrères de la Provence devant l'entrée de la clinique Saint-Martin à Marseille, un établissement spécialisé dans la rééducation fonctionnelle.
Un nouveau contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance pour la commune de Digne-les-Bains a été signé vendredi dernier.
Une signature entre le maire, le préfet, le procureur de la République, le directeur académique et le commissaire départemental. Le contrat local de sécurité est établi par l'ensemble des acteurs concernés dans les champs de la prévention et de la sécurité sur un territoire déterminé. Il s'intègre dans la définition de l'action publique territoriale en matière de sécurité et de prévention de la délinquance. Bernard M, maire adjoint délégué au sport à la prévention de la délinquance et de la tranquillité publique.
Le principe reste quand même qu'il faut prévenir le plus en amont possible la délinquance qui peut se produire. Et puis quand elle s'est produite, ensuite arriver à travailler sur le fait de délinquance et pourquoi pas prévoir par exemple ce qu'on a prévu d'ailleurs avec le procureur de la République, hein, les travaux d'intérêt général, qui font que on peut peut-être remettre en droit chemin quelqu'un qui a eu une dérive. Mais ça, je pense que c'est typique des contrats locaux de prévention de la délinquance, quels qu'ils soient, du premier jusqu'à aujourd'hui. Sur l'ancien contrat de prévention de la délinquance, il y a des choses que nous avons repris, puisqu'elles fonctionnaient, hein, notamment le système des fiches alertes, par exemple, qui nous permet de détecter et de faire une géolocalisation des incidents pour voir comment ça se passe réellement. Bon, tout ça, nous l'avons gardé, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui fonctionnent.
Des propos recueillis par Michel Bonnefoy.
Allez, comme tous les lundis, un point sur les rendez-vous d'actu de la semaine dans les Alpes du Sud.
C'est en près d'une minute avec Gaël Pia.
Après de longs mois de travaux et des fouilles archéologiques qui ont permis des découvertes exceptionnelles, le nouvel office de tourisme de Sisteron sera inauguré ce mercredi matin. La maison des adolescents, gérée par les PEP des Alpes du Sud, signe une convention de partenariat avec l'UDAF des Hautes-Alpes ce lundi. Il s'agit de mettre en place des entretiens familiaux pour apporter un dispositif supplémentaire de soutien à l'action parentale. Une maison digitale entièrement connectée, une innovation de l'entreprise Orange, elle intéresse les élus des Hautes-Alpes qui viendront la visiter ce mardi. Elle est située à Gap. C'est la journée mondiale du bénévolat aujourd'hui et la commune d'Embrun a décidé de récompenser tous ceux qui s'engagent lors d'une cérémonie organisée à la salle de la manutention. Ils animent la saison hivernale depuis 8 ans dans les Alpes du Sud. Les Givrés de la Rue et leur spectacle au pied des pistes reviennent pour une nouvelle tournée. Elle sera présentée ce mardi à Savines-le-Lac. Après une courte trêve hivernale, reprise du hockey sur glace ce mercredi pour les Rapaces de Gap. Pas de Ligue Magnus, mais le quart de finale de la Coupe de France. Gap sera en déplacement à Bordeaux, deux équipes très fortes cette saison.
Merci Gaël.
Et en cette fin d'année, on revient sur les temps forts de l'actualité dans les Alpes du Sud.
Et on débute cette rétrospective par le mois de janvier 2016, c'est avec Alex Cam.
Et un début d'année avec l'arrivée de deux nouveaux préfets dans les Alpes du Sud. Suite au départ de Patricia Villart dans les Alpes d'Haute-Provence et Pierre Bénard dans les Hautes-Alpes, ils sont remplacés respectivement par Bernard Guérin et Philippe Cour. Début janvier, le compromis de vente entre la mairie de Manosque et l'une des filles de Jean Giono est signé pour la maison de Jean Giono. Un compromis de vente pour un montant de 634 000 euros. Objectif, en faire un centre culturel pour les manosquins consacré à la lecture et aux œuvres de Giono. C'est en janvier également que la commune de Maligey accueille une cinquantaine de réfugiés en demande d'asile de la jungle de Calais. Les premiers sont arrivés le 18 janvier, des migrants originaires de Soudan et de l'Érythrée, que l'État a décidé de reloger dans les départements alors que la situation est de plus en plus compliquée dans cette même jungle en ce mois de janvier. Et c'est le point rencontre de Château-Arnoux qui s'occupe de leur intégration sociale avec l'apprentissage du français et l'insertion dans le milieu associatif. Et pour le maire de la commune de Maligey, Gilles Chattard, il était important de participer à l'effort de solidarité nationale.
Moi-même, dans ma famille, en 1943, on s'est réfugié d'un département à l'autre, du Var en Isère. Donc, c'était pour fuir les bombardements et la famine. Il y a toute une structure avec le point rencontre de Château-Arnoux-Saint-Auban. Il y a plusieurs associations qui s'occupent des migrants, notamment, par exemple, pour l'apprentissage de la langue, qui se fait, en fait, qui est un accompagnement. Et ce sont de jeunes gens qui apprennent facilement et très vite.
Pour faire preuve de solidarité également, fin janvier, la préfecture impose à la SNCF de maintenir la gare de Briançon ouverte la nuit. Une décision pour permettre à des SDF de ne pas dormir dans des conditions de grand froid, car en ce mois de janvier, les températures sont parfois proches des moins 15 degrés du côté de la cité Vauban. Et pour assurer la sécurité des SDF, la SNCF a financé la présence d'un vigile et d'un agent. Et puis en sport, le mois de janvier est marqué par la 84e édition du rallye Monte Carlo. Les Hautes-Alpes qui ont été le terrain d'une grande partie du championnat et pour assurer la sécurité, 367 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Le but, veiller au bon déroulement du rallye et éviter l'annulation ou le report de spécial, comme l'explique Richard Micou de l'Automobile Club de Monaco.
Déjà, c'est écouter les consignes qui sont données par les commissaires de sécurité publique. Ensuite, ce sont des règles de bon sens, de civisme. Je crois que quand vous êtes spectateur, il faut simplement se placer hors des zones dangereuses, jamais dans la trajectoire d'une voiture.
Un rallye marqué, bien sûr, par la quatrième victoire de Sébastien Ogier et Julien de Gracia.
Merci Alex.
Alpe 1, comme vous, se prépare à fêter Noël chaque jour. Nous irons donc dans les rues des Alpes du Sud à votre rencontre.
Ce matin, une question. Noël, est-ce qu'une fête commerciale ou bien un moment plus important pour vous de retrouvailles de fête? On vous écoute.
Je dirais familial parce qu'on prépare le sapin, on fait la crèche, on cuisine la dinde, on fait la bûche au marron aussi. Puis après, on invite la famille pour passer le réveillon tous ensemble et puis passer une bonne soirée.
Pas les deux, mon général.
Ouais, ça reste familial.
Peut-être aussi un rassemblement de famille, mais bon, avant tout, c'est commercial.
Bah, c'est un mélange des deux.
On fait en sorte que ça reste une fête familiale, mais bon, après, il faut quand même acheter des cadeaux, donc forcément, c'est commercial, mais on fait en sorte, nous, que ça reste très, très familial, et les petits ne choisissent pas leurs cadeaux, ils font pas de lettres au Père Noël.
Un micro-trottoir réalisé par Jessie Armand.
Alpe 1 Sport. Alpe 1 Sport. Romaric Ponce.
Les résultats sportifs du week-end, avec notamment une belle médaille d'or pour un ancien joueur de la boule Férega Ponçaise.
Guillaume Abelfaux et Alexandre Chira, champions d'Europe de relais en boule lyonnaise avec un 55 sur 60 au tir. Le haut alpin et son binôme ont fait résonner la Marseillaise à Nice ce week-end. Guillaume Abelfaux qui ramène aussi le bronze en individuel au tir progressif, une discipline où il est le champion du monde en titre. Il a réalisé un 42 sur 50. Olivier Bury et Stéphane Rey s'imposent sur le rallye hivernal du Dévoluy avec leur Ford Fiesta. Ils devancent Sébastien Domerdic et Emmanuel Chen pour 3 minutes et 35 secondes. Belle performance des Diables Rouges de Briançon samedi à Neuilly-sur-Marne. Ils se sont imposés 8 buts à 3 sur la glace des Bisons. À 2 partout après le premier 20, les Hauts Alpins ont ensuite dominé 6-1 sur les deux derniers tiers et restent à 1 point de Mulhouse au classement de la division 1-2 hockey avec un match de moins. En hockey féminin, les Briançonnaises Anouk Boucher et Léa Villot se sont qualifiées avec la sélection tricolore dimanche soir pour le tournoi de qualification olympique. Il se tiendra le 9 février prochain au Japon. Les hockeyeuses françaises ont battu les Lettones en finale du tournoi préliminaire 8 buts à 1 à Cergy. Enfin, rappelons que mercredi soir, les Rapaces de Gap seront à Bordeaux pour le quart de finale de la Coupe de France de hockey sur glace. On passe au ski alpin avec Cyprien Sarrazin, 27e du slalom géant d'Altabadia. Le skieur champsaurin, auteur d'un excellent premier run, a chuté ensuite sur le dernier saut de la seconde manche, mais il marque tout de même quelques points supplémentaires au classement. Aujourd'hui, il est engagé sur l'épreuve du combiné. Valentin Giraud-Moine, lui, en revanche, s'est classé seulement 38e de la descente à Val Gardena samedi. Rappelons qu'Anouk Bessy, la descendeuse au Alpine, s'est fracturé la cheville jeudi à l'entraînement à Val d'Isère. 60-10, c'est le score pour les rugbymen dignois face au Gapensais hier dans le derby sud-alpin en première série Provence. Le RC Digne, sur son terrain, a malmené le 15 au Alpin et s'impose logiquement dans cette 10e journée de championnat. Enfin, en football, Gap s'est imposé au Pontet hier soir, un résultat important pour les Alpins sur le terrain d'une formation mieux classée qu'eux en division honneur régionale.
Merci beaucoup Romaric.
Vous êtes témoin d'un événement? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.